Frères et sœurs, en ce jour de Rameaux, recevons la paix et la joie. Oui, recevons une joie resplendissante de la part de l'Éternel notre Dieu et du Christ qui nous sauve de l'ennui et de la décrépitude. Levons-nous pour chanter Dieu avec le premier spontané indiqué dans le livret liturgique au début de notre psautier français. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. Tressaille d'allégresse, peuple de Dieu, pousse des cris de joie, Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juge, il est sauveur, humble et monté sur un ânon. Oui, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il détruira les armes de guerre, il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer sur l'autre et jusqu'aux extrémités de la terre. Portes, élevez vos linteaux et ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Amen. Et poursuivons notre louange par le chant du psaume 86. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume 86. Prenons place et entendons de quelle manière l'évangéliste Luc raconte cet épisode de rameau, autrement dit l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est au chapitre 19, à partir du verset 35. Les disciples donc amenèrent à Jésus l'âne sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les signes qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens qui étaient au milieu d'eux dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Combien était-il ce matin, Seigneur, à se presser sur le bord du chemin, brandissant des palmes, étalant des manteaux sous les pattes de l'ânesse. Attirés par les cris, ils étaient de plus en plus nombreux à reprendre en cœur « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais la foule, qui aujourd'hui acclame Jésus comme le nouveau David, le Messie, demandera demain sa mort. Anonyme, dans une foule, ne sommes-nous pas comme eux, prêts à condamner demain celui que nous honorons aujourd'hui ? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos actes de violence verbale ou corporelle. Pardonne nos lâchetés. Pardonne nos opportunismes malheureux. Pardonne-nous de succomber aux cris de haine. Pardonne-nous de succomber aux logiques de défiance. Oui, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité et de notre manque d'amour. Amen. Frères et sœurs, il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot « chaleur », le mot « confiance », « amour », « justice » et le mot « liberté ». Le mot enfant, le mot gentillesse, et certains noms de fleurs, certains noms de fruits. Le mot courage, le mot découvrir, et le mot frère, le mot camarade, compagnon, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Dans le vocabulaire chrétien, il y a le mot pardon. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Frères et sœurs, entendons à quel point l'Éternel nous appelle à faire rimer le mot pardon avec toute notre existence. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Dieu est amour. Par amour, Dieu a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour-là. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son amour. Dans l'Église, comme artisans de vérité et de pardon, parmi nos contemporains, comme artisans de justice et de paix. Oui, dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toutes choses, nous affirmons que Dieu est amour. Oui, c'est ce que nous croyons. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Frères et sœurs, nous avons entendu et réentendu le récit de Rameau de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Et j'ai donc choisi de vous faire entendre une autre entrée qui sera le sous-texte de notre méditation ce matin. L'entrée du peuple hébreu en terre promise. C'est un récit que nous trouvons dans le livre de Josué, et je vous lirai l'essentiel des chapitres 3 et 4 de ce sixième livre biblique. Donc, les Hébreux sont sortis d'Égypte où ils étaient esclaves. Ils ont commencé à traverser le désert, et c'est un voyage qui a duré 40 ans. Une génération est tombée dans le désert, et les voici au bord du Jourdain. La fin du livre du Deutéronome nous dit que Dieu lui-même a enterré Moïse, et nous voici aux portes de la terre promise. Les officiers parcoururent le camp, et ils donnèrent cet ordre au peuple : lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. L'Éternel dit à Josué, « Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord du Jourdain, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives au temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est du côté de Tsartsam. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme, à sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, et donnez-leur cet ordre. » Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Cela afin que ce soit un signe au milieu de vous. Ainsi, lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux, et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche d'Alliance se tinrent au milieu du Jourdain, jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre au sacrificateur, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme avant sur tous les bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises dans le Jourdain. Et il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des joncs, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours le respect de l'Éternel, votre Dieu. » Je vous propose un petit temps de respiration avec le chant du cantique 178. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 dans notre recueil « Louanges et prières ». Éternel, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Éternel, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Éternel, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Frères et sœurs, de ce récit de l'entrée du peuple hébreu en terre promise, de l'accès de l'homme à la vie en plénitude, j'aimerais relever trois points caractéristiques. Le premier point que je relève, c'est qu'entrer en terre promise consiste à passer par un chemin que jusque-là nous n'avons encore jamais emprunté. C'est ainsi que commence ce récit. Il convient de suivre l'arche de l'Alliance, car il s'agit de passer par un chemin que jusque-là nous n'avons encore jamais emprunté. Entrer en terre promise, c'est donc l'histoire d'une nouveauté. Mieux que cela, entrer en terre promise, c'est l'histoire d'une inconnue. Entrer en terre promise, c'est partir à la découverte de cette terra incognita que nous n'avons encore jamais foulée, mais dont nous pressentons bien qu'il s'agit de s'y rendre, que c'est là que quelque chose nous attend, que c'est là qu'il y a quelque chose susceptible de nous rendre encore plus avides de la vie. Dit autrement, accéder à la vie véritable, à la vie authentique, ce n'est pas se réfugier dans ses habitudes, ce n'est pas retourner dans le sein maternel, c'est tout au contraire venir au monde. Et ce récit est entièrement traversé par cette ambiance de venue au monde, cette ambiance de naissance. Ne serait-ce que par le fait qu'il s'agit de traverser le fleuve. Traverser le fleuve, pour les Parisiens que nous sommes, consiste essentiellement à emprunter un pont. Mais traverser le fleuve dans quelques civilisations, et notamment en Asie du Sud-Est, traverser le fleuve, ça signifie accoucher. Plus intéressant sont les liens entre ce récit biblique et le récit de Genèse 1, d'une part, le récit de création, mais aussi le récit du déluge. Deux autres mythes qui sont des récits de commencement et de recommencement. Vous l'avez entendu, il y a cette expression « à pied sec », la terre sèche, « yabash ». Oh, ça c'est un terme qui revient assez souvent dans ces récits de création de la Genèse. Il y a au chapitre 1 ces deux mentions de la terre sèche qui apparaît, mais c'est aussi le cas dans le déluge, dont on pressent bien que pour que la terre soit à nouveau habitable, il faut que la terre sèche, la yabasha, apparaisse. Nous pouvons également noter un autre parallèle avec ce premier récit de la création que nous trouvons en Genèse 1, c'est le fait de se tenir au milieu des eaux. Les sacrificateurs, ceux qui portent l'arche d'alliance, connue de tout le monde grâce à Indiana Jones, eh bien, les sacrificateurs se tiennent au milieu des eaux. Et se tenir au milieu des eaux, c'est aussi ce que l'on retrouve par rapport aux eaux du firmament dans le premier récit de la création en Genèse 1. Autrement dit, avec Josué, nous sommes dans une ambiance de commencement, de nouveauté, de mise au monde. Entrer en terre promise, ce n'est pas retrouver un âge d'or, ce n'est pas retrouver une sorte de paradis perdu ou oublié. C'est accéder à une nouveauté de vie, à quelque chose que jusque-là nous n'avions pas encore éprouvé. On ne se contente pas de reproduire ce qui a bien marché jusque-là. L'entrée en terre promise, c'est plutôt cette perspective qui s'ouvre devant nous. Laurent Gagnebin a parfaitement raison d'indiquer que la perspective biblique se distingue de l'illustre histoire de l'illustre Ulysse, celui dont le périple de vie ne consiste qu'en une seule chose, retourner chez lui. Ici, il ne s'agit pas de rentrer chez soi. Il s'agit d'aller sa route et de passer par un chemin inédit pour nous rendre là où nous n'avons encore jamais mis les pieds. Et c'est la raison pour laquelle nous pourrions renverser cette formule assez connue, non pas « deviens qui tu es », mais « sois qui tu deviens ». Cette idée que nous sommes dans un processus qui nous fait advenir au monde, qui nous fait naître. Cette ambiance de naissance des fils d'Israël sera d'ailleurs confirmée au chapitre suivant, le chapitre 5, qui racontera la circoncision de tout le peuple. Le peuple qui d'ailleurs sera mis au repos jusqu'à ce qu'il vive, dit le texte hébreu. Il s'agit pour le peuple de venir à la vie. Entrer en terre promise, c'est naître. Jésus dirait à Nicodème, naître de nouveau, naître d'en haut peut-être. Renaître, born again. Ce récit de la traversée du Jourdain, c'est un récit du don de la vie. C'est un récit de naissance. Donc, le passage par une voie nouvelle pour nous. Et la foi, c'est ce qui rend possible cet élan vers la nouveauté. Le deuxième point que je relève, c'est que pour entrer en terre promise, selon ce récit de Josué, il s'agit de dépasser la loi. La loi, c'est ce qu'il y a dans l'Arche d'Alliance. Les deux tables qui contiennent les 10 paroles sont, en quelque sorte, encloses dans cette Arche d'Alliance portée par les prêtres, les sacrificateurs. Le récit nous dit que les prêtres précèdent le peuple, parce que le peuple passe par un chemin qu'il n'a encore jamais emprunté. Puis ils se tiennent au milieu du Jourdain, et là, tout le peuple passe devant l'arche et dépasse l'arche pour arriver sur l'autre rive. Intéressons-nous au verbe qui parle de ce que certains appellent le miracle des eaux. On dit que les eaux du Jourdain sont coupées, un peu comme on coupe le robinet. On coupe l'eau en fermant le robinet, ou on coupe carrément l'arrivée d'eau parce qu'on n'aurait pas payé sa facture. Mais intéressons-nous à l'expression littérale « couper l'eau ». Quand même quelque chose de curieux dans cette histoire de couper l'eau, comme s'il était possible de couper de l'eau comme on coupe un morceau de pain, par exemple. L'hébreu, qui est une langue extrêmement pratique, n'a pas spécialement intérêt à parler du fait de couper l'eau alors que l'eau ne se coupe pas. Mais c'est pourtant le verbe karat, couper, qui est utilisé ici, à plusieurs reprises d'ailleurs. Ce n'est pas simplement une erreur du scribe. Le verbe karat, c'est aussi le verbe qui est utilisé pour désigner le fait de contracter une alliance. Faire alliance, en hébreu, ça se dit karat berit, couper alliance. Cela parce que le rite d'alliance consistait à couper des animaux en deux, et les deux partenaires de l'alliance, ceux qui faisaient alliance, passaient entre ces morceaux d'animaux coupés. C'était une sorte de rite d'imprécation. Si tu ne respectes pas l'alliance, si tu ne respectes pas les termes du contrat, eh bien tu finiras comme ces animaux, coupés en deux. C'est un peu coercitif, mais ça dit quelque chose. Toujours est-il que c'est ce rite qui a donné son nom à l'expression « faire alliance ». Karat berit, couper alliance. Et vous en avez un exemple en Genèse 15 quand Dieu et Abraham font alliance. Que les eaux du Jourdain soient coupées s'explique très bien si on considère que cela permet de dire que Dieu et le peuple font alliance et qu'ils passeront tous les deux entre les deux éléments coupés. Parce que l'arche d'alliance n'est pas simplement le réceptacle de la loi, il est aussi le trône de Dieu, ce trône qui sera déposé dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, là où symboliquement la divinité est présente. Il y a donc une sorte d'ambiance d'alliance également dans ce texte, et ce n'est pas simplement parce qu'il y a un verbe qui n'a rien à faire là, qui concerne l'alliance que je dis cela, mais c'est aussi parce que le récit de cette entrée en terre promise ne se poursuit pas par la prise de Jéricho, primitivement. Un manuscrit de Qumran, qui donc est plus ancien que le texte hébreu qui nous sert pour cette traduction, montre que primitivement, juste après cet épisode, ce n'était pas la prise de Jéricho, mais l'écriture de la loi sur des pierres et la lecture de la loi qui faisait suite à cette entrée en terre promise. Écriture de la loi, lecture de la loi, nous sommes en plein rite d'alliance. Alliance qui succède à la circoncision, qui est également un signe d'alliance. Autrement dit, qu'il y ait alliance sous cette forme entre Dieu et les fils d'Israël indique que les fils d'Israël sont mis en situation de responsabilité. Ils deviennent partenaires de l'alliance. Ils contractent avec le divin une alliance qui engage leur responsabilité. Autrement dit, ce texte, en nous racontant ce qu'est une entrée en terre promise, nous dit que c'est accéder à un lieu que nous n'avons encore jamais foulé, c'est-à-dire que c'est une façon de nous mettre devant les yeux qu'entrer en terre promise, c'est faire face à des situations inédites, et c'est dire que nous sommes équipés pour faire face à ces situations inédites, que nous pouvons prendre au sérieux ce qui nous arrive, parce que nous sommes responsables et donc libres. Voilà pourquoi les fils d'Israël vont devoir aussi dépasser l'arche d'alliance. C'est une manière de dire qu'ils sont responsables et libres de faire mieux que ce que la loi propose. Parce que la vie, c'est une succession de choses inédites, parce qu'une personne que nous croisons, c'est une personne que nous n'avons jamais connue véritablement, même si nous l'avons déjà croisée, même si nous avons déjà vécu quelques années avec elle. Parce que l'aurore qui se lève toujours sur un jour inédit, neuf. Parce que une tâche professionnelle que nous avons à accomplir est toujours une tâche inédite, même si elle est exprimée avec des termes semblables à ce qu'elle fut par le passé. Eh bien, entrer en terre promise, c'est s'impliquer personnellement face à cette nouveauté. Ne pas simplement utiliser les recettes d'autrefois qui ont peut-être bien marché, mais apporter sa touche personnelle, apporter sa touche de nouveauté, le ridouche, dirait-on dans l'interprétation rabbinique des textes, cette nouveauté, cette part d'interprétation personnelle qui fait que nous sommes bien dans le monde des vivants et non pas dans le monde des zombies qui se contentent de répéter inlassablement ce qu'ils ont toujours vécu. Ce texte nous dit que si nous avons l'intention d'entrer en terre promise, si nous avons l'intention de savourer ce qu'est la vie authentique, ce texte nous dit que nous avons intérêt à ne pas nous contenter de suivre à la lettre les prescriptions qui nous sont données par les manuels de vie. Parce qu'il n'y a pas de manuel parfait. Il n'y a pas de manuel qui nous permettrait d'avoir une connaissance parfaite des situations auxquelles nous sommes affrontés. Il n'existe pas de manuel parfait pour le parent. Il n'y a pas de parfait manuel pour le parfait aimant. Il n'y a pas de parfait manuel pour le paroissien idéal. Il n'y a pas de manuel pour l'humain parfait. Et le texte biblique, les archives bibliques ne constituent pas un manuel qui nous dirait l'alpha et l'oméga de ce que nous devons faire, penser, croire, éprouver. L'entrée en terre promise, ça se joue avec une alliance. C'est une façon de dire que nous devenons adultes, que nous pouvons répondre de nos actes, que nous sommes en capacité de nous prononcer, de choisir, de nous décider. À nous d'interpréter les enseignements, à nous de faire quelque chose des points de repère qui nous ont été confiés, et à nous de faire mieux. Le Code civil, c'est extrêmement utile pour assurer la vie commune en société, mais c'est largement insuffisant pour rendre les gens heureux. C'est bien de respecter les lois du Code civil, mais une fois qu'on a respecté le Code civil, il faut commencer à vivre. Eh bien, c'est cela que nous dit ce texte. Non seulement il faut suivre et atteindre la loi, mais il faut ensuite la dépasser. Parce que la loi est toujours en retard sur la vie. Et ce qui nous intéresse, c'est la vie. Ce n'est pas une image passée de la vie. Pourquoi se contenter de la justice quand on peut aussi pardonner? Pourquoi se contenter de tolérer la présence de l'autre quand on peut aussi l'aimer? Pourquoi se contenter de préserver quelque chose, une situation, une personne, quand on peut aussi être l'artisan de son épanouissement? Entrer en terre promise, ce n'est pas maintenir les choses en l'état. C'est leur donner la possibilité d'exprimer toute leur potentialité. La foi, c'est ce qui rend possible cet élan vers l'excellence. Et puis un troisième point que je relève, et pas le moindre. Si je vous ai lu quasiment l'intégralité de ces deux chapitres, c'est parce qu'ils le méritent. J'aurais pu vous faire une lecture qui lisse le texte, mais rien de tel que la lecture de ces deux chapitres qui nous perdent complètement. Peut-être que je l'ai lu de telle façon que vous ne vous sentiez pas perdu, mais ce texte, moi, me perd complètement. On est en train de traverser le Jourdain, on prend des pierres pour aller les poser à Gilgal. En fait, Josué pose les pierres dans le Jourdain. Et puis, la nation qui avait fini de traverser le Jourdain commence à traverser le Jourdain. Et en fait, on va poser les pierres à Gilgal. Et puis, deux fois, il convient de dire que les pierres sont les éléments qui vont nous permettre d'avoir des questions posées par les enfants. On n'en finit jamais d'entrer en terre promise. On n'en finit jamais de traverser ce fichu Jourdain. C'est l'histoire d'une entrée qui ne se termine pas. Alors qu'on venait d'arriver enfin en terre promise, la fin du chapitre 3, il y a le chapitre 4 qui nous fait à nouveau entrer en terre promise. Eh bien, ce n'est pas une tuile. C'est la condition par laquelle nous entrons véritablement en terre promise. C'est la condition par laquelle nous sommes véritablement fils d'Israël, hébreux, traversant. C'est en traversant que l'on devient traversant, hébreux. On n'en finit jamais de traverser ce seuil vers la terre promise. Ce texte, voyez-vous, nous invite à ne pas défendre des positions figées, fermes et définitives, qu'elles soient géographiques, politiques, ou idéologique. Nous ne défendons pas un cadastre. Et d'ailleurs, le livre de Josué et le livre des juges ne constituent pas un cadastre. Les frontières n'arrêtent pas de bouger. C'est un anticadastre, le texte biblique. Nous devons refuser la certitude du sol, parce que le texte biblique nous défend cette certitude-là. Le fait de se ficher en terre, de devenir païen. Non, ce que le texte nous dit, c'est que si vous voulez entrer en terre promise, vous ne devez jamais cesser d'entrer en terre promise. Vous n'en finirez jamais d'être un traversant, d'être un passant, un passeur. Nous pouvons avoir le sentiment parfois qu'une fois que nous avons atteint la loi, qu'une fois que nous avons fait tout ce qui était prescrit, nous sommes quittes. Et peut-être que si nous avons fait un peu plus, si nous avons dépassé la loi, si nous sommes allés au-delà du dogme, que nous avons fait notre effort de libéral bontain en cassant quelques idoles et en posant une nouvelle formulation. Pouvons avoir l'impression d'être quitte, d'avoir fait notre travail. Non. Semper reformanda. Il convient de continuer ce travail d'exploration. On ne s'en tient pas à ce que nous avons là à disposition. Sinon, ce serait adopter une démarche figé, statique, qui est l'opposé de la démarche biblique. Une démarche qui n'en finit pas de nous conduire vers cette terre où ruissellent des promesses. Si nous interrompons notre démarche, si nous cessons de venir au monde, si nous cessons de dépasser la loi, alors nous cessons de vivre. Nous posons que nous avons épuisé nos capacités d'être. C'est un choix, mais on peut faire mieux. Josué est le prophète qui nous indique que nous n'en finissons jamais d'entrer en terre promise, que nous n'en finissons jamais de venir au monde, que nous n'en finissons jamais de nous éduquer, que nous n'en finissons jamais de devenir plus humains. Oui, parfois nous pensons être arrivés et nous nous revêtons des habits du parvenu. Eh bien, ce n'est pas tout à fait idéal. C'est dans ces cas qu'il est heureux que les plus jeunes commencent à nous secouer les puces. C'est quoi ces pierres-là, au juste ? Ce sont par des petites questions comme celle-ci que nous pouvons être interrogés, mais mis et remis en question, à vrai dire. Une question aussi simple que « Que signifient ces pierres pour vous ?» Car lorsque nous pensons être revenus de tout, lorsque nous n'avons plus rien à dire, lorsque nous n'avons plus rien à célébrer, plus rien à entreprendre, plus rien à louer, eh bien, il n'est pas impossible que des pierres parlent à notre place. Et il se pourrait même qu'elles se mettent à crier parfois. Pour nous réveiller, pour nous sortir de notre torpeur, pour nous sortir de notre quant à soi, de cette certitude du sol. Oui, il se pourrait que des pierres nous rappellent que nous avons été capables d'édifier des bâtiments largement supérieurs à nos capacités physiques propres. Oui, il se pourrait que des pierres, peut-être moins matérielles que celles-ci, nous rappellent que nous avons, par le passé, été capables de faire reculer l'obscurantisme, que nous avons été capables de promouvoir la justice, que nous avons été capable d'améliorer les conditions de vie, y compris dans les situations où nous pensions que plus rien n'était possible. Il y a des pierres qui nous rappellent qu'il y a eu des sursauts dans l'histoire, des actes de résistance, des actes de résurrection. Et il se pourrait bien que ces dynamiques-là ne soient pas éteintes et encore moins rayées de notre horizon. Alors il se pourrait que des pierres comme celle-ci, des pierres plus symboliques, quelques mots affectueux, quelques mots d'amour, réveillons-nous quelques désirs, quelques avidités d'une vie authentique. Oui, il se pourrait que nous n'en finissions pas, en fait, de nous lancer dans cette vie qui ressemble à quelque chose. Des pierres qui réveillent en nous le désir de promouvoir la solidarité. Des pierres qui réveillent en nous le goût d'agir en faveur d'un monde plus harmonieux, plus réjouissant. Même, et peut-être surtout, quand tout le monde parle de crise, quand tout le monde parle de défaitisme, quand tout le monde dit que nous n'avons plus aucun levier, que c'est fichu, que nous sommes allés au bout du bout. Eh bien, quelques pierres pourraient être là pour réveiller en nous la possibilité d'envisager l'éventualité que quelque chose d'autre arrive, du neuf, la terre promise. Oui, des pierres qui pourraient nous redire notre capacité à sortir des personnes de l'exclusion, alors qu'elles sont condamnées à n'être que cela, à tisser une fraternité universelle, alors que certains aimeraient faire entendre la doxa d'un chacun pour soi, à mettre la technique au profit de l'humanité et non l'inverse, sans avoir besoin de disqualifier la technique pour autant. Autrement dit, des pierres vivantes aussi, des pierres qui peuvent ressusciter notre capacité à favoriser la vie partout où elle est menacée. nous remettre sur le chemin de cette terre où nous est promise une vie à hauteur de l'espérance que Dieu forme pour nous. Amen. Je vous propose que nous chantions le cantique 278 de manière tout à fait tonitruante. Mais plutôt que de chanter les strophes 1, 2 et 3, je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4. Parce que le fait de chanter que jamais les tempêtes sans la volonté du Sauveur n'éclatent sur nos têtes, moi j'y crois pas trop. Donc les strophes 1, 2 et 4 du cantique 278.
Thank you.
C'est presque un crève-cœur de vous dire de vous asseoir, mais asseyez-vous quand même pour entendre quelques annonces. Quelques informations à partager. Tout d'abord, dans notre vie ecclésiale, vous rappelez que nos églises sont engagées dans une discussion autour du thème synodal, la bénédiction, et que pour enrichir les débats du synode, vous êtes invités à vous exprimer à travers des questionnaires, des supports de réflexion qui sont à votre disposition à l'entrée du temple, et vous pouvez ensuite mettre vos remarques, vos réflexions dans l'urne qui se trouve sur la table. Il y a quelques questions indicatives, mais sentez-vous libre de vous exprimer sur ce thème de la bénédiction. Vous informez aussi que nous avons recruté notre future assistante secrétaire de paroisse. Il s'agit de Sandrine Pouvreau-Rigolet qui commencera ses travaux début mai. Donc nous aurons l'occasion de vous la présenter. Dans notre agenda, c'est une semaine qui est la semaine dite sainte, mais avant les festivités de la semaine sainte, il y aura mardi à 19h30 la réunion du groupe des étudiants et jeunes actifs. À jeudi, le début des festivités en partenariat avec le Foyer de l'âme. C'est justement au Foyer de l'âme qu'aura lieu la célébration du Jeudi Saint, autour du dernier repas que Jésus partage avec ses disciples. Donc 7 bis rue du Pasteur Wagner, près de la Bastille. Ce sera à 19h. Donc là, c'est mon collègue Marc qui prêchera, mais les deux autres pasteurs seront aussi d'activité. Le lendemain, vendredi 18, à 19h, mais cette fois à l'oratoire, ici même, célébration du Vendredi Saint, et c'est Vincent Hubach qui prêchera. Samedi, ici même, à 18h, chantons Pâques. Donc c'est plutôt des chants qu'un culte. Et là, c'est votre serviteur qui se chargera de la méditation. C'est l'intérêt de la Sainte Trinité libérale de la rive droite, c'est que ça tourne. Et dimanche 20, culte de Pâques. Et donc, avec Marc, nous partagerons la chaire pour une prédication à deux voix. Pour ce qui est du vendredi, le vendredi saint, le culte commence à 18h, mais à 19h, pardon, mais un quart d'heure plus tôt, vous pouvez d'ores et déjà venir, parce que Jean-Dominique nous offrira quelques pièces musicales à l'orgue. Donc, pour entrer dans cette célébration du vendredi saint, vous pouvez venir dès 18h45. Ensuite, vous annoncez par avance que le samedi 26 avril, donc pas samedi prochain, mais le samedi suivant, sera organisée une après-midi autour du livre « Rencontre innocente » d'Éric de Puter. C'est à la fois un manuel d'exégèse et puis une mise en pratique de ce manuel d'exégèse avec le récit de Samson. C'est une rencontre organisée par les Semeurs de Liberté, cette association qui a été fondée justement pour la mémoire d'Éric de Puter, assassiné au Cameroun, et puis aussi pour donner un prolongement à ses travaux. Et c'est donc Philippe Godin et Corinne Lanoir qui feront une lecture-conférence, et cela aura lieu donc le samedi 26 avril à partir de 14h, salle Mono, donc en face aux 4 rues de l'Oratoire. Je crois avoir fait le tour des informations à partager. Il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est maintenant le temps de l'offrande. Eh bien, faites bon usage de ce temps qui nous est offert. Unissons-nous dans la prière. Père, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Et en communion avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, nous nous levons pour lancer ces mots reçus de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour une fois, un petit mot d'exhortation, ça tient en deux mots, oubliez-moi. Les vacances commencent cet après-midi, Marc arrivera du Saint-Esprit où il préside le culte, il sera donc de permanence cette semaine, il prendra ses vacances la semaine prochaine, et là vous pourrez à nouveau repenser à moi si vous le souhaitez. Pour l'heure, recevons cette parole de bénédiction. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.